Santé pour tous. Santé pour tous. Tous les jeudis, Paul Bénédicte Bolloux pilote le rendez-vous consacré à la santé et au bien-être. Les experts de la santé répondent aux questions de santé pour vous éclairer.
Le cancer de la prostate est le cancer le plus courant chez les hommes. On pense habituellement que le cancer de la prostate est une maladie du vieil âge. Les hommes sont toutefois de plus en plus nombreux à recevoir un diagnostic alors qu'ils sont encore jeunes, on entend ici moins de 55 ans. Selon l'Organisation mondiale de la santé, ce cancer est responsable de 9000 décès par an, mais beaucoup de formes sont d'évolution lente et ne nécessitent pas forcément le traitement chez l'homme âgé comme mentionné en amont. Qu'est-ce que le cancer de la prostate? Qui touche-t-il exactement? Comment le dépistage fonctionne-t-il? Quels traitements sont proposés et où en est la prise en charge en Côte d'Ivoire? Dans ce magazine, un spécialiste fera le point sur ce mal qui touche plusieurs personnes chaque année. Et puis, dans Hello Docteur, deuxième partie de ce temps d'antenne, rubrique consacrée aux maladies chez les enfants, il sera question de reflux fréquents chez les enfants qui se manifestent généralement par de la régurgitation ou des vomissements répétés. Dans ce magazine, nous présenterons la physiopathologie du reflux chez l'enfant, le diagnostic et le traitement. On en parle avec un pédiatre dans pas longtemps. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue dans Santé pour tous sur Radio de la Paix.
Santé pour tous. Santé pour tous.
Docteur Dekou Angoran, bonjour. Vous êtes chirurgien urologue. Avant de parler de la maladie qui nous intéresse aujourd'hui, dites-nous, qu'est-ce que c'est qu'un service d'urologie?
Le service d'urologie, c'est un service, pour être plus simple, qui s'occupe de traiter les maladies du rein, des urétères, de la vessie, de l'urètre, mais également des organes génitaux de l'homme et la prostate. Donc c'est surtout le côté chirurgical des maladies que nous traitons.
La maladie dont nous parlons est le cancer de la prostate. Mais dites-nous, c'est quoi la prostate?
La prostate, c'est l'équivalent de l'utérus chez l'homme. La prostate se trouve en bas de la vessie chez l'homme. Or, l'utérus se trouve en arrière de la vessie chez la femme. C'est un petit organe glandulaire et musculaire. Glandulaire parce que ça contient des glandes, comme par exemple vous avez les seins qui sont des glandes. Et donc musculaire parce que ça contient des muscles. Et donc c'est un organe qui est glandulaire et musculaire et qui pèse environ 15 à 20 grammes. Donc voilà comment on peut explicitement expliquer la prostate.
Est-ce que la prostate est une maladie?
Il faut dire que tous les garçons ont la prostate. La prostate n'est pas une maladie, c'est un organe. Donc tout le monde, même les enfants garçons, ont la prostate. Cependant, à un certain âge, c'est-à-dire qu'à partir de 50 ans surtout, il y a des maladies qui se développent sur la prostate.
Docteur, peut-on savoir quelles sont ces différentes maladies?
Il y a trois maladies essentielles. Il y a les infections qu'on appelle les prostatites. Il y a une maladie bénigne qu'on appelle l'hypertrophie bénigne de la prostate ou adénome de la prostate, qui est l'équivalent du fibrome chez la femme. Et puis maintenant, il y a le cancer de la prostate. Donc voilà les trois maladies qu'on peut avoir sur la prostate. Sinon, la prostate elle-même n'est pas une maladie.
Venons-en au cancer de la prostate. Comment cela se présente?
Le cancer de la prostate est une multiplication anormale des cellules de la prostate, c'est-à-dire les cellules glandulaires. Parce que le cancer de la prostate, quand il arrive, ne se manifeste pas. C'est un tueur silencieux. C'est pour cela que c'est une maladie qui survient chez les hommes de plus de 50 ans. Nous conseillons toujours aux hommes à partir de 50 ans, justement parce que le cancer ne se manifestant pas, de venir à l'hôpital une fois au moins par an pour se faire consulter. Lorsque le cancer se manifeste, c'est que c'est devenu une maladie qui a évolué. Alors, quand elle évolue, cette maladie, elle peut se manifester de plusieurs façons. Comme elle se manifeste au niveau de la prostate, alors que au sein de la prostate traverse l'urètre, qui est un canal qui transporte les urines depuis la vessie jusqu'à l'extérieur par le pénis. Donc les premières manifestations que les gens peuvent avoir, c'est surtout les manifestations urinaires. Donc dès qu'on sent ces manifestations urinaires, ça veut dire que le cancer a évolué. Parce que il se développe en périphérie de la prostate et donc va vers l'intérieur où se trouve l'urètre. En ce moment-là, ça va entraîner des manifestations urinaires. Donc ce sont des gens, généralement des personnes qui vont très souvent se lever plusieurs fois, la nuit surtout, pour aller pisser. Et ils auront la sensation de ne pas avoir vidé totalement la vessie. Donc lorsqu'ils reviennent, ils repartent encore. Donc quelqu'un qui la nuit se lève plus de 4 fois pour aller pisser, ce n'est pas normal, il faut que cette personne consulte. Il y a aussi une autre manifestation qui est le fait que l'individu pousse. Nous on appelle ça la dysurie, c'est-à-dire qu'il est obligé de faire des efforts avant de mettre les urines. Donc le fait de pousser ou pisser n'est pas normal chez une personne de plus de 50 ans. Quelquefois, on peut avoir aussi des écoulements de sang dans les urines, ce qu'on appelle l'hématurie. Parfois, on peut avoir aussi une hémospermie, c'est-à-dire que lorsque vous éjaculez, vous aviez du sang dans le sperme. Ça peut se traduire aussi par une brûlure mictionnelle. Ça, c'est généralement lorsque la maladie est localisée au niveau de la prostate. Mais la maladie peut envahir les os et le sang. Donc, quand ça envahit les os, ça se traduit par des manifestations rhumatologiques, c'est-à-dire que vous avez des douleurs osseuses, vous avez des douleurs au niveau des articulations. Ça peut entraîner même des fractures des os. La maladie peut envoyer des métastases, c'est-à-dire que ça pousse comme des champignons, ça envoie des métastases même au niveau du cerveau. Et ça peut entraîner des manifestations déficitaires au niveau des membres ou d'un côté du corps. Et il faut dire que l'extension même au niveau du pelvis, c'est-à-dire que là où se trouve la prostate, peut entraîner une compression des vaisseaux. Et vous pouvez avoir de gros pieds parce que le sang ne peut pas circuler, le pied grossit, les testicules grossissent et même le pénis grossit. Donc tout ce que je viens de citer, ce sont des manifestations de complications. Voilà. Sinon, le cancer ne se manifeste pas quand il commence. Et c'est en ce moment-là qu'on peut le guérir. Et c'est en ce moment-là qu'il faut venir consulter.
Docteur Degou, existe-t-il des causes de survenue du cancer de la prostate? Quels sont les facteurs de risque qui peuvent favoriser le développement de ce cancer-là?
Il faut dire que d'abord, les causes du cancer de la prostate ne sont pas connues. Mais il peut y avoir des facteurs qui favorisent. Le premier facteur qui favorise, c'est l'âge. Le cancer de la prostate est fortement lié à l'âge. Et la majorité des cancers de prostate qu'on observe, s'observe donc sur les personnes de plus de 50 ans. C'est exceptionnel avant 50 ans. Ça peut arriver, mais c'est exceptionnel. Le plus souvent, c'est après 50 ans, surtout chez les gens de plus de 60 ans. Ça, c'est le premier facteur. Le deuxième facteur, c'est que le cancer est sous influence des hormones masculines, ce que nous appelons la testostérone. Dans 9% des cas, le cancer est d'origine familiale, c'est-à-dire que lorsque vous aviez un père ou votre frère qui a eu le cancer de la prostate avant 60 ans, vous aviez 2 à 3 fois plus de risque de faire le cancer de la prostate.
À vous entendre parler, cela est donc héréditaire.
Bon, disons 9% sont d'origine familiale. Effectivement, dans 9%, ça peut être héréditaire. Mais sinon, le cancer, on dit, il est sporadique. C'est-à-dire qu'il peut arriver chez tout le monde. Ça, c'est surtout après 60 ans. Mais lorsque vous développez un cancer très tôt, il y a des risques que les enfants puissent en faire. Maintenant, le quatrième élément, c'est l'alimentation. Parce que l'alimentation qui est riche en graisse animale, c'est-à-dire que la viande rouge qui contient de la graisse, surtout saturée. Donc, ceux qui mangent beaucoup de la viande rouge, les aliments riches en graisse animale, sont exposés à faire plus de cancer. C'est-à-dire que c'est un facteur promoteur du cancer de la prostate, même d'autres cancers. Par contre, il y a certains aliments qui seraient protecteurs du cancer de la prostate, notamment le soja, notamment la tomate qui contient du lycopène, c'est-à-dire c'est cette substance-là qui donne la couleur rouge de la tomate. Il y a les vitamines E et tout ça qui sont protecteurs du cancer de la prostate. Les facteurs qui favorisent, notamment la race noire aussi, est un facteur qui favorise.
Vous dites bien que la race noire est beaucoup plus exposée à faire cette maladie, mais comment le comprendre?
Oui, la race noire est plus exposée à faire la maladie parce que là aussi, c'est lié à une mutation d'un certain gène, en fait d'un chromosome, c'est le chromosome 8. Donc, chez l'homme noir, effectivement, il y a une mutation qui s'opère au niveau du chromosome 8 qui fait que le noir est plus exposé à faire 1,5 fois plus de cancer que le blanc et 3 fois plus de cancer que l'asiatique, c'est-à-dire le chinois et puis le japonais. Voilà un peu l'explication que je voulais apporter pour ce qui concerne le noir.
Quelle est la situation épidémiologique du cancer de la prostate en Côte d'Ivoire?
Il faut dire qu'en Côte d'Ivoire, d'abord, nous avons quelques problèmes. Le problème que nous avons, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'urologues en Côte d'Ivoire. C'est pour ça que nous organisons justement des rencontres universitaires et nous faisons des formations aussi post-universitaires pour sensibiliser le maximum de médecins pour effectivement étendre les missions à l'extérieur d'Abidjan, parce que la majorité des urologues sont à Abidjan et à Boaké. Quelquefois, les malades n'ont pas d'argent et donc ne se font pas consulter. Si bien que les statistiques que nous avons sont des statistiques hospitalières seulement. C'est-à-dire que pour les malades qui viennent et qui viennent à des stades, c'est quand seulement ils ressentent la maladie qu'ils viennent consulter. Donc ceux-là que nous recevons qui viennent ici viennent à des stades tellement tardifs que généralement ils ne guérissent pas de leur maladie. Donc les statistiques ici, faut reconnaître que c'est difficile à établir. Mais au CHU de Cocody, nous avons en moyenne à peu près 100 à 150 cancéreux de la prostate par an.
Pour terminer, dites-nous docteur, est-ce que l'on peut prévenir la prostate?
Les recherches se font pour que effectivement nous puissions arriver au taux où sont arrivés par exemple les Japonais. Mais ce que tout le monde fait pour le moment, c'est de dépister parce que on n'a pas encore eu de médicaments ou de vaccins pour prévenir, contrer le développement du cancer. Par contre, ce qu'il faut faire, c'est de pouvoir consulter très tôt. C'est à ce stade-là seulement qu'on peut traiter et guérir l'individu de son cancer. Donc le conseil, c'est justement pour prévenir. Sinon, il n'y a pas d'élément concret de médicaments, de vaccins qui puissent prévenir le cancer de la prostate.
C'est déjà très difficile d'apprendre qu'on a un cancer si en plus on est submergé d'informations négatives. Le cancer de la prostate peut avoir des répercussions sur de nombreux aspects de notre vie. Il est important d'avoir à l'esprit que la présence d'un ou de plusieurs facteurs de risque n'entraîne pas systématiquement l'apparition d'un cancer. De même, l'absence de facteurs de risque reconnus n'empêche pas l'apparition d'un cancer de la prostate.
Hello docteur, Bobo, maladie spécifique infantile chez les nourrissons, les bébés et jeunes enfants, des conseils de santé pour prévenir et traiter les maladies les plus fréquentes chez l'enfant.
Hello docteur reçoit aujourd'hui le docteur Bois-Nicole. Elle est pédiatre. Bonjour docteur, avec vous, l'on parle du reflux chez l'enfant. Qu'est-ce que c'est exactement?
C'est une maladie qui est caractérisée par la remontée du bol alimentaire contenu de l'estomac vers l'œsophage. En principe, quand on mange, le bol il est descendant. C'est-à-dire la nourriture part de la bouche, va descendre l'œsophage avant d'arriver au niveau de l'estomac. Et entre l'œsophage et l'estomac, il y a un sphincter, un orifice avec des muscles qui sont là. Et ce transit est tel que quand l'aliment passe dans l'estomac, il ne doit pas remonter. Après le passage, il y a une fermeture. Dans le reflux, cet aliment remonte. Généralement, c'est les nourrissons, c'est le lait. Donc, ça peut avoir des conséquences puisque ce n'est pas la normale. C'est très fréquent, mais dans certains cas, il peut être tellement important que ça devient pathologique et avec des conséquences. Et il va falloir traiter pour ne pas qu'il y ait trop de perturbations sur la croissance de l'enfant.
À quel moment ces signes là débutent chez le nourrisson ou chez l'enfant?
Généralement, avant l'âge de 3 mois, chez les tout petits, et c'est essentiellement les régurgitations. Les régurgitations, c'est des renvois d'aliments de l'estomac vers l'œsophage. Généralement, c'est le lait, mais c'est du lait caillé. C'est du lait qui est parti, qui est resté un peu dans l'estomac. Du fait de l'acidité de l'estomac, ce lait va cailler et donc va remonter. Ce sera des régurgitations en petite quantité. Contrairement aux vomissements qui peuvent aussi exister, en ce moment, c'est des vomissements en plus grande quantité. Et donc, ça fait partie des signes de régurgitation et les vomissements.
Et dans le cas où le reflux est en grande quantité?
Dans le cas simple, c'est juste des petites régurgitations et quelques vomissements. Mais parfois, on a des cas où c'est tellement important qu'il s'installe des conséquences sur l'état de l'enfant. L'enfant va se mettre à maigrir, la dénutrition va s'installer. Et dans ces cas, avec des reflux très abondants, on est obligé d'aller faire un examen qu'on appelle la fibroscopie. C'est un examen endoscopique, c'est-à-dire avec une sonde, on va passer l'œsophage et on va aller voir. Donc, à ce carrefour-là, entre l'œsophage et l'estomac, on va même rentrer dans l'estomac et on va voir que, anormalement, le bol qui était dans l'estomac remonte. On peut profiter pour mesurer le pH parce qu'on va voir aussi qu'au niveau de l'œsophage, il y a une acidité qui est anormale parce que l'acidité est plus au niveau de l'estomac. Donc, le diagnostic, il est d'abord clinique du fait des vomissements et des régurgitations importants, mais c'est surtout la fibroscopie avec la mesure du pH au niveau de l'œsophage qui permet de poser le diagnostic.
Pris sous cet angle, il y a forcément des conséquences au reflux, docteur. Lesquelles, s'il vous plaît?
Oui, il peut avoir des conséquences. Au niveau des conséquences, il y a ce qu'on appelle l'œsophagite. C'est-à-dire que comme l'acidité remonte au niveau de l'œsophage, on va avoir une inflammation, une irritation. Ça peut donner des douleurs, l'enfant va avoir mal. À cause de ces douleurs, l'enfant peut refuser de s'alimenter, mais il va s'installer un amaigrissement progressivement. Puisque l'enfant vomit, je ne dirais pas tout, mais en grande quantité, donc il ne reçoit pas assez de nutriments. Mais aussi du fait de la douleur, il se met à ne plus manger. Et c'est un retentissement donc sur l'état général. On peut avoir aussi ce qu'on appelle les bronchites. Disons les infections respiratoires, les bronchites, les pneumopathies, parce qu'il peut avoir, vous savez, la voie digestive communique d'une certaine manière avec le carrefour aérodigestif, avec les voies respiratoires. Donc les régurgitations, il peut avoir des petits passages au niveau des voies respiratoires avec à la longue une infection qui s'installe. Donc une atteinte des bronches, c'est ce qu'on appelle la bronchite, ou alors une atteinte du parenchyme pulmonaire, c'est ce qu'on appelle une pneumopathie. Ça peut entraîner aussi une hyper-réactivité au niveau des bronches, donc des contractions un peu trop accélérées au niveau des bronches, qui seront à l'origine d'un asthme. Et très souvent, à l'origine de l'asthme, on peut retrouver un reflux. Et enfin, on a des apnées au niveau des voies respiratoires. Quand c'est en petite quantité, c'est les infections récidivantes. Mais quand c'est en grande quantité, il y a un étouffement parce que l'enfant n'arrive plus à respirer. Donc, on dit qu'il est en apnée. Et ça peut être dramatique parce que l'enfant s'étouffe. Il peut même mourir. Et tout ça a pour conséquence finale, je dirais, une perturbation de la croissance de l'enfant quand on n'est pas au stade dramatique où l'enfant meurt.
Est-ce que ce reflux-là se soigne? Si oui, quel est le traitement?
Le reflux, effectivement, peut se soigner. Mais il faut savoir que le traitement repose d'abord sur des mesures physiques et hygiéniques et même diététiques. Comme on l'a vu, c'était plus les aliments qui remontaient. Donc, il faut donner les biberons. Pour ceux qui sont au biberon, hein, sinon il faut donner l'aliment, quand c'est de la bouillie, par exemple, de manière très fragmentée, tout doucement, je dirais. Et aussi, tout calmement. C'est-à-dire, il ne faut pas que l'enfant soit agité. Par exemple, on a des pratiques qui consistent à, je dirais pas, à gaver l'enfant. Comme nos mamans le font, ça peut être dangereux. Si l'enfant déglutit tout ça trop vite, il est complètement gavé, ça va remonter forcément plus vite. Quand on doit nourrir l'enfant au biberon, il faut que le débit soit assez faible, assez lent. Après le repas, il faut maintenir l'enfant dans une position qui facilite, je dirais, la digestion, mais qui évite aussi ces reflux-là. En général, il faut poser l'enfant sur l'épaule pendant un certain temps, même 30 minutes, voire une heure si c'est nécessaire, jusqu'à ce que l'enfant fasse son rôle. Et quand il y a un reflux important, il faut maintenir la position demi-assise aussi. On peut faire asseoir un peu l'enfant en quelque sorte et on peut coucher l'enfant sur le ventre. Ça permet de réduire un peu aussi les reflux. Habituellement, c'est sur le dos qu'on couche les enfants, mais en cas de reflux, on peut être emmené à coucher l'enfant sur le ventre. Il faut éviter aussi les repas trop liquides parce que quand c'est liquide, ça sort plus facilement. Donc, on peut être emmené à épaissir les repas de l'enfant. En dehors de ces mesures physiques et de ces mesures diététiques, il y a des médicaments. C'est essentiellement le même principe. Vous avez par exemple la gélopectose qui permet d'épaissir le repas. Vous avez des laits adaptés par rapport au reflux. C'est des laits qui généralement sont un peu plus épais, qui sont vendus en pharmacie, mais je dis qui doivent être prescrits par un médecin. Parce qu'il ne faut pas partir d'emblée en pharmacie parce que mon bébé a vomi un peu, aller chercher ce type de lait. C'est des laits qui doivent être prescrits après examen, après interrogatoire, vraiment quand le médecin pense ou quand il a posé le diagnostic de reflux. Il existe certains médicaments aussi qui ont le principe de modifier un peu la motricité, qui ralentissent un peu, si je peux dire, les contraction de telle sorte que le lait ne remonte pas trop vite. Et enfin, en dernière position, on aura aussi des protecteurs. Le contenu de l'estomac remonte, mais c'est acide. Il faut protéger la muqueuse. Donc, il y a des protecteurs. Généralement, c'est des petits pansements qu'on prend pour protéger la muqueuse.
Hello, docteur.
La prévalence des reflux gastro-œsophagiens ou RGO chez l'enfant est considérée comme pathologique lorsqu'il est associé à des signes cliniques importants ou à un dommage tissulaire. Le RGO chez les nourrissons peut être un générateur d'anxiété pour les parents, particulièrement lorsque les vomissements sont fréquents ou abondants. Les mesures non pharmacologiques telles que le positionnement de l'enfant et l'utilisation de préparations lactées épaissies suffisent généralement à améliorer significativement la situation. C'est ce que nous disait le docteur Bois-Nicole, pédiatre dans la deuxième partie de ce magazine.
Radio de la paix.
Les causes du cancer de la prostate ne sont pas véritablement établies. Certains facteurs de risque sont connus comme l'âge, les antécédents familiaux et plus récemment mis en cause, le régime alimentaire trop riche en graisse animale. Plus le cancer sera diagnostiqué tôt, plus les chances de guérison seront grandes. Ces questions ont toutes été abordées dans ce numéro de Santé pour tous par notre spécialiste des chirurgiens urologues. Fin de Santé pour tous, merci et à bientôt.